Sylvie et merci Philippe pour cette présentation très intéressante et très riche et très vivante. C'est compliqué d'être aussi vivant après une présentation comme celle-là, mais je vais faire de mon mieux. Alors je vous remercie d'abord, je vais quand même mettre ça en grand peut-être. Alors avant de commencer ma présentation, je voudrais juste expliquer un peu pourquoi je suis là, parce que c'est un peu pas tout à fait commun d'avoir une post-doctorante à une plénière. Donc il se trouve que la thématique de la guérison est une thématique que je porte depuis ma thèse et que la MADES m'a fait l'insigne honneur de la choisir pour articuler le colloque autour de ça. Le collectif est plein, donc tous ses membres s'en sont emparés, l'ont travaillé, l'ont enrichi, l'ont questionné, l'ont travaillé, lui ont trouvé un titre que je trouve génial. Et du coup, lui ont donné cette espèce de... Enfin, lui ont donné la forme d'un colloque. Et donc j'en suis... Je les remercie tous à titre individuel et en tant qu'ensemble. Alors moi, je vais m'essayer à partir un peu en généralité et autant que faire se peut, à donner un peu de... à essayer de définir quelques contours de ce qu'on appelle un peu de manière générique guérison. Alors, la guérison ainsi que les notions connexes comme recovery, rétablissement, rémission, réhabilitation, etc. constituent un objet complexe et assez difficile à circonscrire. De nombreux acteurs participent de près ou de loin à son établissement et plusieurs auteurs ont travaillé ces notions mais à partir d'angles et de spécialités très diverses. Donc tout ceci finalement concourt à son éclatement. Donc l'objet de ce colloque est de proposer à divers membres de la communauté scientifique de réfléchir ensemble à cet objet afin d'en dégager quelques contours. Issus de diverses sources, donc enquêtes, littérature, panels, enfin, colloques, etc., ma présentation voudrait montrer que le processus partant de la maladie à la fin de celle-ci, appelé donc diversement être en voie de guérison, être en rémission, être guéri, être réhabilité, mérite d'être décrit précisément et d'être analysé. C'est-à-dire qui peut être envisagé comme un objet de recherche en soi, au même titre que la santé ou la maladie, et dès lors, la guérison ou la rémission ou les autres termes pourraient être analysés comme un processus ayant éventuellement un terme et apparaît comme étant une construction sociale et culturelle au sens extensif du terme. Alors, bien sûr, plusieurs auteurs des sciences sociales se sont penchés sur cette idée de guérison et sur les moyens de la tester. Notamment Arthur Kleinman, dans son ouvrage « Patient and Healer in the Context of Culture », et plus récemment Jean Benoît, a proposé dans un court article de l'ouvrage de Nathalie Dumay et Henri Rousset, « Soigner ou guérir », une anthropologie de la guérison, c'est le titre de son petit article. Alors Kleinman opère une distinction nette entre la guérison biologique et psychologique qu'il appelle « curing disease » et la guérison sociale et personnel, qu'il qualifie de « healing illness ». Jean Benoît, quant à lui, dissocie formellement la guérison de type traditionnel, religieuse ou même chamanique, de la volonté de soigner de la médecine moderne, occidentale ou biomédicale. L'anthropologie de la guérison ne serait alors envisageable que pour les médecines dites traditionnelles, au terme vraiment très générique du terme. Toutefois, la distinction entre biologique et sociale, pour pertinente qu'elle soit, contredit la porosité de ces deux espaces, donc biologiques et sociaux. De plus, la guérison est tant pour les guérisseurs que pour la biomédecine un objet complexe et ambivalent. La biomédecine soigne, elle traite bien sûr, au même titre, et même elle est qualifiée parfois de médecine curative, et comme Anne-Chantal Hardy l'a montré hier, la guérison au sens large soit quelque chose qui s'apparente à la fin de la maladie est visée. Ce qui est contenu un peu dans le terme de médecine curative, même si étymologiquement parlant, cure n'est pas proprement, mais signifie plutôt traiter une maladie, il s'agit plutôt, là, dans le discours, enfin, dans les représentations profanes, de viser à guérir, de tendre à mettre fin à cette pathologie. Autrement formulé, les soins ont pour finalité le rétablissement des patients, ou leur retour à une existence autonome, voire presque normale. et le développement de la notion de qualité de vie pour les maladies chroniques révèle le poids de ce retour à la norme et cette tentative de voir une existence la plus normalisée possible. Et d'ailleurs, je pense même que le terme qualité de vie pourra être interrogé plus avant et peut-être être pris comme objet d'analyse. De leur côté, les guérisseurs ne font pas que guérir. Ils soignent, ils traitent les maladies, bien sûr. Ça change en fonction de ce qu'ils savent et qu'ils connaissent de la maladie, éventuellement du statut social de la personne, comme certaines communications vont le montrer. Et plus précisément, dans le cas des possessions, ils transforment ce qu'ils appellent pas vraiment une pathologie ou une maladie en quelque chose de presque chronique, puisqu'il s'agit après de faire des offrandes régulières, de suivre des interdits de manière rigoureuse, de donner un culte au génie. Bref, il y a une espèce de continuité dans laquelle on ne sait pas très bien si la personne est guérie, malade. Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus complexe que juste malade ou guérie qui se tisse. Alors, ma présentation, puisque je vais rentrer quand même dans le vif du sujet, est structurée en trois parties. D'abord, je vais vous présenter, et ça sera une présentation que j'espère le plus rapide possible, parce que ce sont des résultats très préliminaires, une petite exploratoire quant au discours sur la guérison d'un corpus de médecins. Ensuite, je prendrai un peu plus de temps pour vous présenter les résultats, les principaux résultats issus de ma thèse sur les guérisons miraculeuses du VIH en Éthiopie. Et enfin, je terminerai par essayer de poser quelques constats généraux et quelques interrogations à partir des résultats de mes propres travaux et enquêtes, d'une revue de la littérature, d'une revue aussi un peu des propositions de communication de ce colloque et d'un panel sur la guérison que nous avons co-organisé l'année dernière à l'AESA avec Sylvie. Alors, la première partie est que j'ai intitulé « La guérison vue par les médecins, une catégorie à destination des patients ». Alors j'ai mené durant quelques mois une petite enquête consistant en une quinzaine d'entretiens formels et informels auprès de médecins généralistes et spécialistes de diverses spécialités quant à leur conception de la guérison. Alors parmi ces spécialistes, il y avait des généralistes, puisque maintenant il s'agit d'une véritable spécialité, de gynécologues, de neurologues, de spécialistes en réhabilitation, d'obstétriciens et de chirurgiens. Donc l'objectif était de déterminer et d'analyser leurs usages et leur représentation de la guérison plus spécifiquement en tant que guérison, et puis dans leur relation aux patients. Alors trois points peuvent être dégagés. D'abord, on considère, et comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement et comme avec plusieurs auteurs ou plusieurs communicants, qu'un des objectifs de la médecine est bien sûr de soigner, mais on lui demande quand même d'être curative. Donc avec toute cette ambivalence de chercher à quand même guérir, on lui demande si c'est pas à la médecine, c'est à la science. En tout cas, à cette association médecine-science de mettre une fin aux pathologies. Toutefois, quand on les interroge plus spécifiquement sur leur capacité, sur la capacité de la médecine, et je tiens à préciser la capacité de la médecine à pouvoir guérir, ils s'en défendent, de manière assez virulente parfois. Guérit-on de la vie? Ou alors la médecine n'est pas une eau de jouvence? C'est quelque chose d'assez récurrent. Enfin, c'est même très récurrent. Un autre point de régulier, c'est que les médecins de toute spécialité renvoient aux autres spécialités la capacité à guérir. Par exemple, les généralistes renvoient aux spécialistes. Ils disent ben, « moi je suis les médecins, les patients régulièrement, donc je les vois toujours avec des pathologies. » Les spécialistes, eux, vont pouvoir dire que c'est terminé. Les spécialistes, bien sûr, sont bien plus réticents que ça et ne s'avancent pas beaucoup plus sur le terrain de la guérison. Et un autre exemple, c'est les médecins en soins palliatifs parlent, ils disent « mais non, on n'est pas une médecine curative, donc on ne guérit pas ». Et donc, il renvoie à la médecine dite non palliative ou non curative. Inversement, les infectiologues renvoient à leur chirurgien, avec tout la vieille tension qui peut exister et qui est assez récurrente entre les infectiologues et les chirurgiens, avec cette grande catégorie de chirurgiens qui est assez vaste et qui tient quand même un peu le haut du pavé dans la hiérarchie médicale. Dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réactions face à ces questions étaient loin d'être neutres. La question suscitait parfois le rire, parfois une pointe de colère, et le plus souvent une attitude de défense. Enfin, et le point qui est à mon sens un des plus intéressants, c'est que les médecins se disaient réticents à utiliser le terme de guérison quand on leur demandait comment ça se passait avec les patients. Et pourtant, au cours des entretiens, au fil même de la discussion, me disait bah, « j'ai annoncé à cette personne-là qu'elle était guérie du VHC, ou qu'elle était guérie de sa grippe ». Enfin, bon, pas vraiment de sa grippe, puisque c'est justement une question qu'on va voir tout à l'heure, on ne pose pas cette question-là rarement pour la grippe, ou de la tuberculose. Et interrogé donc sur les raisons de cette annonce, ou pourquoi vous avez dit à cette personne qu'elle était guérie, ils expliquent ben, « c'est pour les aider à tourner la page, pour passer à autre chose, pour reprendre espoir ». Pour reprendre le cours de leur vie normale. Ainsi, il apparaît que la notion de la guérison, de guérir pour les médecins est très complexe, elle est ambivalente. Ils s'en défendent et en même temps, ils l'annoncent. Enfin, ils sont tiraillés entre deux positions. Et puis, finalement, dans leur usage, et c'est très prégnant dans leur usage envers les patients, il y a quelque chose qui se tisse, c'est comme s'ils partageaient finalement une conception profane de la guérison et son rôle un peu social. Ainsi, on peut dégager deux aspects de cette notion de guérison. C'est que, d'un côté, ça constitue une partie, un enjeu du diagnostic et du traitement, ainsi qu'un acte de communication, et comme Alexandrine Musso, ça a une dimension, on l'a évoqué Alexandrine, ça a une dimension performative. Alors, un peu sans transition, je suis désolée, je vais vous parler de la deuxième partie que j'ai intitulée « 4 étapes idéales typiques de la sortie de la maladie, la guérison comme processus social, biologique ou médical ou thérapeutique, on peut réfléchir à ce terme le plus approprié, et culturel ». Donc je vais vous parler plus précisément de mon résultat de travail de thèse. Alors les sciences sociales de la santé établissent qu'être reconnu comme malade induit un comportement particulier. Il implique d'annoncer le rôle et le statut de malade ou de patient. Mais finalement, nous ne savons pas précisément et de manière générale quand, comment et à quelles conditions ce statut de malade prend fin. Quand est-ce que ce malade sort de ce rôle pour retrouver le statut de personne bien portante ou de personne normale à nouveau? L'observation puis l'analyse du rituel de guérison miraculeuse du VIH par le Bénit en Éthiopie révèle que cette sortie de la maladie peut être décomposée en étapes précises qui sont dans ce contexte-là très ritualisées. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. En Éthiopie, au début des années 90, et comme un peu partout dans le monde, il n'existait pas d'ARV et pas de traitement à proprement parler pour le VIH. Si bien que les personnes contaminées se soumettaient ou commençaient à se soumettre au rituel chrétien de l'eau bénite, pour obtenir une guérison miraculeuse du VIH. Alors l'eau bénite en Éthiopie est un recours assez fréquent, c'est quelque chose de très répandu auquel beaucoup de gens adhèrent. La question de la possibilité de guérir d'une pathologie grâce à l'eau bénite ne se pose pas, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans ou pour les autres congrégations. C'est un recours extrêmement courant, assez banal, pour un maux de tête ou pour une grippe ou pour un ensorcellement ou pour un génie, enfin, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est quelque chose de très prégnant dans la société éthiopienne. Alors, un point sémantique, d'abord, l'eau bénite est appelée en amharique tsebel, et les personnes qui prennent de l'eau bénite sont appelées des tsebeltenia, c'est-à-dire littéralement, entre guillemets, qui prend de l'eau bénite. Alors, être un tsebeltenia, ça implique d'endosser un statut spécifique, qui ressemble beaucoup à celui des moines. J'utilisais d'ailleurs un terme un peu barbare, qui est une ascèse extramondaine de type laïcisé, c'est-à-dire que c'est des moines qui sont... je passerai là-dessus. Mais c'est comme des moines, mais versant laïcisé. Alors, ça suppose quand même, quand on devient presque moine, d'adopter un certain nombre de comportements très précis, notamment par exemple pour les hommes de ne pas fumer, de boire, de limiter leur rapport sexuel, pour les femmes aussi d'endosser un rôle plutôt très traditionnel, donc de porter des jupes, de ne pas se maquiller, de rester humble, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, et puis bien sûr d'observer un grand nombre de religieuses assez strictes. Par ailleurs, la cure à proprement parler, soit le rituel de l'eau bénite, comporte deux parties, le baptême d'abord et puis l'absorption. L'absorption, en fait, le baptême prend place tôt le matin et est immédiatement suivi d'une absorption d'une grande quantité d'eau bénite, et cela en vue d'expulser le virus. Alors bien sûr, absorber une grande quantité d'eau bénite, ça peut monter jusqu'à 7 litres pour certaines personnes en une heure et demie, ça a des conséquences physiologiques, concrètes. Concrètement, ça provoque le vomissement de substances qu'on va qualifier de colorées, qui sont vertes, noires, jaunes, enfin bref, toutes les couleurs possibles et imaginables. J'ai pas entendu bleu, mais bon. Des diarrhées, bien sûr. Et puis le fait d'abondamment uriner. Alors toutes ces conséquences sont considérées comme des signes que la cure est en route. C'est-à-dire que la guérison complète pourra advenir prochainement. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à comprendre comment ça se passe pour sortir de la maladie et puis pour être considéré comme une personne normale à nouveau. Alors le processus allant de la maladie à la normale, au retour au statut de personne normale, comporte quatre étapes qui sont en Éthiopie extrêmement évidentes et sur les sites de Bénite en tout cas très marquées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ces signes de la guérison que je vous ai évoqués tout à l'heure, le vomissement de substances colorées, mais aussi le fait d'uriner abondamment, mais aussi d'autres signes un peu moins religieusement construits, comme recouvrir l'appétit, se sentir plus fort, avoir les cheveux qui repoussent, se sentir à nouveau en paix, etc. Et d'autres signes comme ça, qui sont parfois très fins, parfois beaucoup plus évidents, quand ils commencent à apparaître de manière un peu plus solide, à ce moment-là, on est à la charnière, à la deuxième étape. Ces signes doivent être confirmés par leur présence, par leur permanence, et à ce moment-là, la personne qui est séropositive et de subalténia, puisqu'elle vit sur un site de bénite, va se rendre dans un centre de dépistage au VIH. Et en faisant ça, elle sollicite le jugement biomédical pour confirmer les signes subtils et intimes qu'elle a perçus elle-même. La biomédecine, dans ces cas-là, est convoquée comme un acteur de la guérison. Elle va statuer sur la guérison, entre guillemets, naturelle, biologique, virologique, plus exactement, de la maladie. Alors, cette phase-là, elle est un peu complexe parce que les subalténiens, enfin les personnes vivant avec le VIH, ne s'arrêtent pas à un seul test. Ils vont en faire plusieurs, parce que bien sûr, ce n'est pas simple cette question-là, d'autant plus avec l'arrivée des ARV, en sachant, en intégrant l'idée que le sida est une maladie dont on ne guérit pas, il faut quand même attester de la possibilité d'un miracle. Et donc, ils vont faire 1, 2, 3, jusqu'à 5 tests pour confirmer que le test est négatif au VIH. À ce moment-là, quand vraiment ils sont sûrs, quand ils ont leur papier, parce qu'ils sortent avec leur papier, souvent, enfin, ils s'arrangent pour pouvoir aller dans une clinique privée pour avoir le statut de séronégatif sous les yeux. Et ça fait l'objet de campagnes d'attestation du miracle avant-après, séropositif avant, séronégatif après, dans les magazines diffusés par les églises. À ce moment-là, quand ils ont ce papier-là, la troisième étape peut commencer. Ils sont dans une étape curieuse, ils sont déliés du VIH, bien sûr, mais leur communauté se trouve sur les sites de bénite. Ils sont des subalténiens encore, ils prennent de l'eau bénite. Donc, à ce moment-là, c'est cette troisième étape. Les subalténiens retournent dans leur communauté, ils discutent avec les membres, leur père, leur entourage, leur disent qu'ils sont séronégatifs, les pères sont contents pour eux, ils essayent de l'attester, ils leur montrent le papier, parfois ils refont des allers-retours avec les centres de tests de dépistage pour vérifier cette situation. Ah, j'ai oublié ça. Ils font aussi des témoignages devant l'église, devant les clercs, devant les fidèles. Alors, ce témoignage est assez ritualisé. Les clercs leur demandent de témoigner d'une manière assez précise. Il y a une certaine souplesse qui s'instaure, mais ça permet d'intégrer pour la personne que son nouveau statut, qu'elle est vraiment déliée du VIH, qu'elle n'est plus séropositive, qu'elle est devenue séronégative. C'est comme tout se passe comme si les subalténiens consolidaient ce nouveau statut de guéri grâce à leur communauté. Ça, c'est toute une circulation qui se présente. Et donc, c'est comme tout se passe comme si ça constituait une seconde rupture pour le sujet. Et donc, la communauté des pères, tout cet entourage de ces... Je rappelle que les sites de bénite sont des espaces un peu hors du monde, hors dehors de la société classique. Ça participe à la validation du statut de personne déliée du VIH et donc guérie cette fois-ci. Puisque la communauté les déclare et les considère comme ça. Une fois que cette étape est passée, que vraiment la communauté et la personne a intégré le fait qu'elle était « guérie », entre guillemets, puisque là, on peut vraiment parler de guérison, enfin, on commence à pouvoir parler de guérison, la quatrième étape commence. Cette personne est redevenue entre guillemets normale. Elle opère à ce moment-là un choix de vie. Elle a plusieurs possibilités. Soit elle peut demeurer sur le site de Bénit, ou bien elle peut retourner dans sa communauté d'origine, ou bien choisir de reconstruire une autre vie ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la cure de Bénit est quelque chose de très commun en Éthiopie, de très reconnu. Si bien qu'elle partage la société dans son ensemble, partage la même foi dans la cure miraculeuse. Si bien que la réintégration de la personne nouvellement guérie ne pose pas de problème. Elle peut même venir en disant « j'ai été à Nsebeltenia, j'ai été sur un site de Bénit » et continuer de témoigner qu'elle a été guérie du VIH ou d'autres pathologies, c'est assez récurrent. Dès lors, puisque la société la laisse libre de faire le choix et la considère comme guérie, la personne peut endosser les rôles et les statuts sociaux et culturels qu'elle choisit. Ainsi, et schématiquement, et là encore il s'agit d'un schéma idéal typique qui connaît énormément de variations et qu'on peut faire bouger à peu près dans tous les sens et interroger chaque étape, on peut considérer quatre grandes étapes ou quatre grandes phases ou quatre grands points. J'ai choisi de les appeler étapes, mais on peut très bien les appeler autrement. Alors la première est la lecture des signes de la guérison par l'individu et son entourage. Ensuite, il y a une validation par un thérapeute, quel qu'il soit, biomédical, un savoir expert, un guérisseur, enfin, cette étape est importante. Ensuite, en troisième point, il y a la validation de la fin de la maladie par l'individu, en lui-même, de manière intime, et par son entourage. Et enfin, la réintégration ou l'intégration du sujet considéré comme à nouveau normal par la société. Et notamment, et c'est un point sur lequel je vais revenir, une tentative de retour à l'équilibre économique, à l'autonomie, au désir, en Éthiopie c'est très flagrant, au désir de pouvoir fonder une famille et de se marier. Et puis le retour à l'emploi, la demande d'emploi, le fait de pouvoir retravailler constitue une pierre angulaire de ce statut de personne normale, entre guillemets. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit d'un schéma idéal typique. On peut aussi, qui à mon sens permet de penser les dissonances, les convergences, et pourrait éventuellement constituer, et je vous le propose, une base de réflexion pour caractériser la guérison. On peut également choisir ou employer de recourir aux notions de disease, de illness et de sickness, chères aux anthropologues de la santé que nous sommes tous et que nous connaissons, pour caractériser ces signes de la guérison. Pour ces signes, enfin, toutes ces catégories ne coïncident pas toujours. Parfois, elles rentrent en tension, voire se contredisent. Ou encore, dans certains cas, quand ils concourent, ils convergent à amener l'ancien malade à retrouver, à recouvrer son statut de personne normale. Alors maintenant, je vais essayer de monter encore plus en généralité et de m'appuyer sur les quatre étapes que j'ai mises en lumière. Et en faisant une revue de la littérature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de la guérison, des problématiques suscitées par notamment le virus Ebola, ainsi que les propositions de communication de ce colloque, ainsi que les propositions du panel que nous avons co-organisé avec Sylvie l'année dernière, et puis quelques-uns de mes propres travaux, j'ai essayé de structurer et de montrer que, en tout cas d'utiliser le fil directeur de ces étapes idéales typiques pour dérouler quelques-unes des grandes interrogations et puis aussi de mettre en évidence certains points. Alors la première étape, bien sûr, la lecture des signes de la guérison par le sujet et son entourage. On observe, bien entendu, des variations selon les maladies hémiques, éthiques, selon la nosologie, et puis aussi selon l'entourage, et puis la perception intime du patient. Tout ça sont des choses qui, à mon sens, seraient intéressantes de travailler. Et par exemple, ici même, Laureline Coulon montre que les sans-abri qui ont une perception du corps très particulière et spécifique, qu'ils ont construit dans la rue, qui sont en dissociation avec le monde médical, quittent l'hôpital contre les avis médicaux la plupart du temps, car ils se sentent guéris. Donc ils n'adhèrent pas aux signes de la guérison des médecins et des patients, enfin des médecins et des soignants plus généralement. Dans le cas des maladies chroniques, cette perception individuelle de la guérison ou de mieux-être conduit selon les contextes soit à l'arrêt du traitement ou bien encore à la recherche d'une autre thérapie ou bien encore au contraire même à une meilleure observance. Ainsi, les variations contextuelles de ces perceptions individuelles auquel l'entourage participe pour éventuellement constituer un axe de recherche. Et là encore, il s'agit d'une proposition. Alors la seconde étape est à mon avis sans doute une des plus complexes et la plus riche, c'est la validation de la guérison, en tout cas de ce qu'on peut appeler, ou des notions connexes, réhabilitation, rémission, etc., etc., par un thérapeute ou par un expert ou un spécialiste. Alors parmi toutes ces thématiques, il y en a une qui, à mon sens, est la plus cruciale, en tout cas la plus importante ou les plus intéressantes, c'est comment se construit l'efficacité d'une cure ou d'un soin. Comment est-ce qu'une thérapeutique va juger de son efficacité? On l'a vu notamment avec Marie Ménoret, c'est une question qui est lancinante et qui se pose de manière récurrente. Est-ce qu'elle l'a construit avec la société? Comment est-ce que les laboratoires aujourd'hui participent à cette construction? Alain Giamy a soulevé cette question-là aussi. Comment est-ce que les malades sont impliqués dans l'établissement de l'efficacité ou la reconnaissance de l'efficacité? Est-ce que les familles sont impliquées ou pas? Cette thématique est notamment abordée dans ce colloque par la santé mentale qui interroge le changement de paradigme qui est introduit par le concept de réhabilitation. De plus, on retrouve cette question de l'efficacité dans les communications traitant du médicament. On le trouve aussi en filigrane dans la médecine, dans les communications traitant de la médecine palliative ou même de la médecine personnalisée. Ainsi, une autre question, c'est quand est-ce, qui est aussi, un communicant l'exprime aussi, c'est que ça a une visée pratique. À quel moment on arrête les soins? Et là, Philippe Zelati l'a posé aussi, c'est quand est-ce qu'on arrête de suivre un patient? Quand est-ce qu'on arrête de faire du care, même au titre individuel et dans la sphère privée? À quelles conditions? Comment est-ce que ça s'articule et comment ça se discute, ces questions-là? Alors, une autre question qu'on peut ranger dans la deuxième étape, dans ce deuxième point, c'est la question de la circulation des savoirs, entre les savoirs experts et profanes autour des signes de la guérison. Il faut noter que c'est quand même une question transversale à toutes les étapes. Notamment, et par exemple, pour des pathologies que nous considérons en Occident et en France particulièrement comme banales, par exemple un rhume ou une angine ou la grippe, même si c'est plutôt un mauvais exemple, la validation par le thérapeute peut tout à fait être oblitérée. Finalement, on arrête, quand on est guéri, on sort du système biomédical et du suivi thérapeutique et on se contente de ne plus avoir affaire à la biomédecine, on rentre chez soi et on retourne à sa vie normale. Parfois, elle est énoncée de manière explicite, comme dans les centres de traitement Ebola, par la biomédecine qui délivre un certificat. Et puis, parfois, la validation par le thérapeute ne suffit pas. Par exemple, Ebola le montre bien aussi, c'est un bon exemple. Mais il y a également plus anciennement la tuberculose. Pierre Guillaume avait montré dans un ouvrage qu'il a publié en 2003 que ce n'est pas parce que la médecine posait et considérait et laissait sortir les malades du sanatorium qu'ils étaient réintégrés dans la société. Il y a une discordance entre les deux étapes. Ainsi, si une société considère que l'on ne peut pas guérir d'une maladie, alors l'ancien malade demeure socialement exclu. Il reste stigmatisé, il reste sur le bord de la route. Il reste, d'une certaine manière, socialement malade. Enfin, la troisième étape est celle de la reconstruction du sujet, c'est-à-dire du passage de intime, vraiment personnel, de malade à bien portant. Dans les cas des maladies chroniques, ce passage est assez compliqué, puisqu'il s'agit de passer du statut de malade à proprement parler quand on est en phase de diagnostic et de prise en charge, à quand la maladie se chronicise et se banalise, à une personne à un statut un peu flou que certains communicants, ou même Alice Desclos à Dakar, qualifient de liminal. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, qui sont non contaminantes, dont la sérologie est indétectable dans le sang et qui sont peu contaminants, que sont-ils? Sont-ils malades? Sont-ils bien portants? Eux-mêmes se posent la question. Ils sont dans un espèce de statut bizarre. Ils essayent de dénuyer et de mettre de côté l'infection, mais finalement, ils n'y arrivent pas vraiment puisqu'ils ont ce suivi thérapeutique régulier tous les 6 mois ou tous les 3 mois selon les personnes. Et puis, cette question du passage intime de la maladie à bien portant pose la question, bien entendu, de la subjectivité du malade ou de l'ex-malade et renvoie, encore une fois, à nos représentations sociales de la maladie. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, il s'agit parfois d'une seconde rupture pour le patient. Par exemple, Jérôme Prader et ses co-auteurs ont étudié les guérisons de la drépanocytose, qui est une affection normalement chronique, chez les adolescents suite à une allogreffe. Pour ces auteurs, le travail psychique de la guérison implique l'enfant et sa famille. Et il est plus lent que la guérison somatique, mais nécessaire, entre guillemets, à sa guérison effective. Donc on voit bien qu'il s'agit pour le malade de se reconstruire, de passer, de se créer une nouvelle identité. Et Eva Carpigio, montre dans sa présentation autour du recours à la chirurgie esthétique que, je cite, la guérison repose sur le sentiment d'acceptation de son nouveau soi. Rappelons aussi l'assertion célèbre de Canguilhem, selon laquelle aucune guérison biologique n'est un retour à un état antérieur de santé. Mais pour les malades, et après avoir entendu plusieurs communications et lu aussi plusieurs propositions de communication sur le cancer, il ne s'agit que rarement d'un retour à un état antérieur de santé. Les personnes le savent. Tout se passe comme s'il fallait plutôt effacer les traces de sa maladie. L'état antérieur de santé constitue plutôt un repère, un point de repère, un idéal rarement atteignable, voire impossible à atteindre. Ce que montre la communication de Coralie Codulodo sur une association d'anciens malades du cancer qui s'appelle Vivre comme avant. Et cette association recrute ses bénévoles sur leur bonne santé et les invite à se retirer en cas de rechute. On voit bien que là, il y a une tension entre vivre comme avant, mais être impossible, essayer de conserver cet idéal, mais en même temps ne pas vraiment y arriver. Et essayer de conserver, c'est comme si ça constituait un espèce de graal inatteignable, mais autour duquel on va essayer de fabriquer du sens et de fabriquer et de reconstruire une vie, entre guillemets, normale. Et ça va être mon quatrième point. Ainsi, on pourrait interroger plus généralement le statut intime du malade selon les pathologies, mais aussi selon les contextes sociaux et culturels, mais pourquoi pas en fonction des thérapies. Enfin, il y a toute une série de questions qui peuvent découler de ces remarques-là. Enfin, la dernière étape, c'est le retour au statut de bien portant, c'est-à-dire la réintégration des rôles et des statuts de personnes normales, avec toutes les questions que pose cette question de normalité. On l'a vu tout à l'heure, et je vais le rappeler, et j'en suis un peu désolée, c'est la question de la tuberculose, la guérison de la tuberculose au milieu du XXe siècle est loin d'être évidente. La personne est guérie, selon la biomédecine, plutôt selon la médecine qui utilise plus massivement les antibiotiques, mais pour autant la communauté ne la réintègre pas, la considère encore comme malade. Un autre exemple, c'est le projet qui est actuel, c'est le projet de loi qui est porté aujourd'hui par Marisol Touraine sur la mesure du droit à l'oubli pour ceux qui sont qualifiés de survivants du cancer. Alors cette mesure est intéressante parce qu'elle rend compte de difficultés similaires. En effet, il s'agit d'effacer de leur dossier médical les éléments qui témoignent du cancer, donc pour ces anciens patients. Cet effacement rappelle les tentatives des anciens malades d'effacer leurs traces. Cette opération, donc effacer les éléments du dossier médical, a pour but de leur permettre d'accéder aux prêts bancaires ou de contracter une assurance maladie, ce qui était compliqué jusqu'ici. Et Le Figaro explique, je cite, qu'il s'agit, entre guillemets, d'une stigmatisation insupportable à laquelle compte bien s'attaquer le gouvernement. Et donc ce nouveau droit témoigne des représentations profanes de la maladie, de leur pérennité et de l'implication aussi politique et des nécessités de normativité et de construire une normativité. Il montre bien. Et donc je vais terminer là-dessus. Il montre bien que qu'il y a plusieurs points dans ce retour à la norme. Un des plus importants et des plus récurrents, et une grande demande un peu partout, sur tous les terrains que j'ai pu enquêter, c'est le retour à l'emploi. La possibilité de gagner sa vie, de refaire sa vie, constitue un élément central autour de la norme, tant émiquement qu'éthiquement. Et donc, bien entendu, Et ça, c'est un des points centraux, et je terminerai et je conclurai là-dessus, cette question de normalité, de retour à une vie normale, à une vie digne d'être vécue, à cette question de la qualité de vie comme borne de la guérison, constitue, à mon sens, un des aspects les plus sociaux, les plus culturels, met en jeu tous les contextes. Elle témoigne aussi de la variété des contextes, qu'ils soient historiques, culturels, historiques ou politiques, enfin bref. Et puis, un petit mot, un petit clin d'œil, cette question de la guérison renvoie aussi à la capacité de résilience, la capacité de se reconstruire. Et voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Judith, pour cet effort conceptuel. C'était presque le début de la synthèse du colloque avec les communications d'hier. Alors, on va réserver un petit temps à la discussion, on va peut-être prendre plusieurs questions. En attendant que vous réfléchissiez à vos questions, aux commentaires, moi je vais faire un petit commentaire. C'est vrai que la guérison, c'est un petit peu le bébé de Judith. Ceci dit, je crois avoir compris quel était le message subliminal du contenu dans le choix de ce thème, à la lumière de ce que nous a dit la présidente de la MEDES hier matin et des difficultés un petit peu rencontrées par l'association. C'est qu'en fait, il s'agit de guérir Amadès. C'est d'ailleurs marqué sur le stylo que vous avez reçu. Plus sérieusement, s'il y a des questions, des commentaires...